Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture. Ce matin, par exemple, Muriel Robin qui reprend ses sketchs cultes. Alice Bluzet a beaucoup ri, elle l'a rencontrée et elle a beaucoup ri encore. Du rire aux larmes, on va rendre un hommage au comédien Gaspard Ulliel, disparu hier dans un accident de ski. Héloïse Goy nous dira son talent à lui et son admiration à elle en deuxième heure. On retrouve Héloïse dans quelques instants pour le journal des médias et les audiences. Notre infomédia avec Luma, l'humanité, qui lance deux nouvelles formules. Aujourd'hui, nouvelle formule du magazine. L'ex-Huma Dimanche que les militants vendaient sur les marchés, ça a changé de nom, ça s'appelle l'Humanité Magazine. Et lundi, nouvelle formule du quotidien. Nous serons avec le directeur de l'Huma, Fabien Gay, lui aussi est un peu nouveau. Et puis nos invités, Yves Bigot, directeur général de la chaîne TV5 Monde, c'est le troisième réseau mondial après CNN et MTV. TV5 Monde qui s'agrandit, Monaco vient d'entrer dans le tour de table. On parlera également des nouveautés de la chaîne qui se met aux séries humoristiques. Enfin, Daniel Picouli pour Les Larmes du Vin, son nouveau roman, le plus intime, une nouvelle manière de parler de lui, un verre à la main, et quand c'est pas lui, c'est ses parents et tous les potes. Il y aura justement son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame avec Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
L'hommage des médias justement à Gaspard Ulliel, une nouvelle réglementation pour le numérique présentée aujourd'hui devant le Parlement européen. Et puis une émission politique tout particulièrement adressée aux femmes.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier.
En tête TF1 avec la série The Undoing, qui retrouve un petit peu des couleurs pour son final. 3 230 000 téléspectateurs, soit 15,4% de part d'audience, avec un pic à 19,3% de part d'audience pour l'épisode final. Derrière, un petit score pour la nouvelle série de France 2, L'amour presque parfait, 2 650 000 téléspectateurs, c'est 13,4% de part d'audience. Et puis, un score historique pour M6 avec Qui veut être mon associé, 1 930 000 téléspectateurs, c'est 10,3 de part d'audience. M6 était leader sur la cible FRDA hier soir.
Un score historique pour l'émission, pas pour M6. M6 a déjà fait beaucoup plus, mais l'émission, c'est son record.
Exactement.
Europe 1 Culture Média.
On ouvre ce journal des médias avec les hommages justement des médias à Gaspard Ulliel, disparu hier.
Et oui, suite à la disparition brutale de l'acteur, les chaînes ont bouleversé leur programmation. Hier soir, Paris Première diffusait Jacoule Croquant, un film de Laurent Boutonnat dans lequel Gaspard Ulliel n'avait que 22 ans.
Il faut frapper maintenant. Je sais où sont les armes et je sais comment y entrer. Tout marche sur la surprise et la rapidité. Regardez. Ça, c'est le château. Nous allons attaquer par là, mais entrer par ici.
Tu pourrais articuler, s'il te plaît ?
France Télévisions a également annoncé hier la diffusion de deux films avec Gaspard Ulliel cette semaine. Ce soir, France 3 déprogramme « Ce qui nous lie ». Le film de Cédric Lapiche est remplacé par celui de Jean-Pierre Jeunet, « Un long dimanche de fiançailles ». Gaspard Ulliel y incarnait Manek, un soldat de la Première Guerre mondiale, fiancé à Mathilde, joué par Audrey Tautou. Ce film avait valu à Gaspard Ulliel son premier César, celui du jeune espoir masculin. De son côté, France 2 diffusera dimanche soir « Sibylle » de Justine Triet. Il s'agit du dernier film dans lequel on a pu voir Gaspard Ulliel au cinéma. Il y jouait aux côtés de Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités comme Jean Dujardin, Alice Taglioni, Marina Foïs ou encore Gilles Lelouch ont posté des messages et des photos d'hommage. Le réalisateur Xavier Dolan, avec qui Gaspard Ulliel avait tourné « Juste la fin du monde », a également réagi sur son profil Instagram en s'adressant directement à l'acteur. Il écrit, je cite, « C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément. Je ne peux rien dire d'autre, je suis vidée, sonnée par ton départ. » Fin de citation. La presse a également rendu hommage à Gaspard Ulliel en lui consacrant des couvertures aujourd'hui. Libération titre par exemple ce matin « Gaspard dans la nuit » avec une photo pleine page en noir et blanc de l'acteur, cigarette à la bouche. Gaspard Ulliel est aussi en couverture du Parisien aujourd'hui en France qui qualifie l'acteur d'enfant prodige du cinéma. Et le Figaro, de son côté, revient sur la fin tragique de, je cite, « cet acteur secret ».
Et on reviendra dans la suite de l'émission sur les films qui ont fait la carrière de cet acteur. Dans l'actualité des médias également, le Parlement européen qui s'apprête à imposer de nouvelles régulations aux géants du web.
Et oui, aujourd'hui, le Digital Services Act, le DSA, va être soumis au vote du Parlement européen. Au programme, une série de nouvelles règles juridiques qui visent à encadrer l'espace numérique pour les utilisateurs européens, à lutter contre la désinformation et à protéger les internautes.
Mais alors concrètement, si cette loi est votée, qu'est-ce que ça va changer pour nous, les utilisateurs ?
Eh bien déjà, la publicité ciblée sur Internet sera réglementée. Toutes les grandes entreprises du numérique devront fournir au moins un système de recommandation de contenu ne s'appuyant pas sur le profil de chaque utilisateur. Autrement dit, vous pourrez désormais tomber sur des pubs qui ne concernent pas du tout vos centres d'intérêt. Un coup dur pour Google, Amazon, Twitter ou encore Facebook qui ont créé leur modèle économique sur la base de ces publicités ciblées. Et par ailleurs, si cette proposition de loi est votée, les moteurs de recherche devront partager leurs données, c'est-à-dire les algorithmes, avec les chercheurs pour permettre un contrôle de leur fonctionnement et de mieux comprendre l'évolution des risques en ligne. C'est un peu, Philippe, comme si on demandait à une célèbre marque de soda, que je ne citerai pas, de dévoiler une recette secrète, sa recette secrète. Cette proposition de loi inquiète déjà les géants du web, parce que si cette réglementation entre en application, eh bien les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, devront scrupuleusement respecter les règles sous peine de payer une amende pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel.
Et on continue dans l'actualité des médias avec Anna Cabana, la journaliste qui est également l'épouse de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est à son tour sous le feu des critiques.
Et oui, après la polémique autour de Jean-Michel Blanquer qui avait accordé une interview aux Parisiens sur le protocole sanitaire à l'école alors qu'il était en vacances à Ibiza, on vous en parlait en début de semaine, c'est au tour de sa femme Anna Cabana d'être au cœur des critiques. Cette journaliste, qui dirige désormais la page livre du journal du dimanche, anime aussi sa propre émission sur la chaîne franco-israélienne I24 News, dans laquelle elle s'entoure d'invités pour décortiquer l'actualité. Et mardi soir, la journaliste a animé un débat autour de l'affaire Ibiza, qui concerne le ministre de l'Éducation, sans préciser qu'elle était elle-même la femme de Jean-Michel Blanquer.
On va d'abord commencer par parler de cette crise politique autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire d'avant la rentrée scolaire depuis Ibiza.
Une séquence qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Accusée notamment par des journalistes de manque de déontologie et de professionnalisme, Anna Cabana s'est défendue hier dans Le Parisien. Elle assure avoir fait son travail de journaliste et refuse de payer la facture tous les jours de sa relation avec le ministre. Un débat qui relance la question des conflits d'intérêts dans les couples médiatico-politiques. Nous avons contacté la chaîne I24 News pour lui proposer de s'exprimer sur le sujet. La chaîne n'a pas donné suite à nos demandes pour le moment. Hier soir, sur I24 News, Anna Cabana a ouvert son émission sans revenir sur ce sujet. Elle n'a fait aucune mention des critiques qui lui étaient adressées.
Et Bruno Donnet reviendra tout à l'heure, en début de deuxième heure, sur la fameuse séquence dans ses télescopages. On continue dans l'actualité des médias avec une émission politique tout particulièrement adressée aux femmes. C'est LCI et le magazine Elle qui s'associent pour une soirée spéciale.
Eh oui, l'émission aura lieu en prime le 7 mars prochain, veille de la Journée internationale des droits des femmes. Une émission sur LCI animée par Ruth El-Krieff et Ava Jamshidi, grand reporter au magazine Elle. Sur le plateau, les candidats à l'élection présidentielle présenteront leur programme devant un panel de 8 lectrices du magazine Elle. Véronique Filippona, directrice du Elle, nous explique pourquoi son magazine a souhaité s'associer à la chaîne pour cette émission.
Il nous semblait important au magazine Elle d'entendre les candidats sur toutes les questions qui concernent les femmes. D'abord, c'est une tradition au magazine Elle d'entendre les candidats lors des élections. Et aussi parce que depuis 2017, beaucoup de questions ont émergé dans la société. Les violences conjugales, MeToo, les féminicides, la parité, l'égalité des salaires. Donc c'est sur toutes ces questions que nous souhaitions interroger les candidats. Et nous avons trouvé que s'associer à une chaîne de télévision en direct était très, très fort et très impactant.
Diversité, sécurité, parité hommes-femmes, santé, environnement, autant de thèmes que pourront aborder les quelques Françaises sélectionnées pour l'émission. Véronique Filippona précise comment seront choisies les lectrices présentes sur le plateau.
Donc il y aura un panel de 8 lectrices qui auront été sélectionnées suite à ce sondage que nous allons faire sur le digital et qui pourront poser en direct aux candidats les questions qui les concernent.
Sondage et cet appel à la candidature arriveront dès février prochain sur les réseaux sociaux du magazine et le site elle.fr.
Merci beaucoup Eloïse Goua, je vous dis à tout à l'heure, on va parler de Gaspard Ulliel avec vous, allez lui rendre un hommage.
Tout à
Merci
fait, à
beaucoup
tout à, l'heure.
À tout à l'heure. Dans un instant, c'est notre info média du jour. Le journal Luma se relance en proposant une nouvelle formule du quotidien et du magazine. Le magazine sort aujourd'hui. C'est fini Luma Dimanche. Ça s'appelle l'Humanité Magazine. Nous serons avec son directeur, Fabien Gay. Il est également sénateur par communiste de Seine-Saint-Denis. On va d'ailleurs lui demander comment il concilie les deux activités. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
L'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès, c'est ce qu'on peut lire en tête du quotidien qui paraît depuis 1904, journal qui a tout vécu depuis sa création et qui a toujours été intimement lié au Parti communiste français, même s'il n'est plus officiellement l'organe central du PCF. Le journal reste très engagé à gauche et s'associe à toutes les luttes. Il œuvre également pour une ouverture sur la société et sur la culture. Après un changement de direction à la rentrée dernière, une consultation de ses lecteurs, le journal lance une nouvelle formule de l'UMA, version quotidienne mais également en version hebdo. Le but, évidemment, élargir son électorat. Question au-delà des frontières du PCF. Bonjour Fabien Gay.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau directeur du journal L'Humanité depuis la rentrée dernière. Vous êtes également sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, membre du groupe CRCE. Donc, vous lancez plusieurs formules de l'UMA. Aujourd'hui, le premier étage de la fusée avec la sortie de l'hebdo. Je le montre pour qui veut nous voir sur europe1.fr. À la une, Thomas Pesquet. Il est communiste, Thomas Pesquet, il est sympathisant ?
Non, pas du tout, mais on est très très fiers et très heureux d'accueillir le spationaute Thomas Pesquet, qui nous fait rêver, qui est une des personnalités préférées des Françaises et des Français, et c'est un grand honneur de l'avoir pour ce premier numéro de l'Humanité Magazine.
Il vous a donné une interview ?
Une interview depuis Houston, puisque c'était en décembre dernier, mais j'ai vu qu'il était à Paris ces derniers jours.
Alors, hier, ce magazine s'appelait L'Humanité Dimanche, même l'UMA Dimanche, comme on le disait depuis des années, des années, des L'Humanité années, des Dimanche. Années. Pourquoi L'Humanité Magazine ? Pourquoi ce changement de titre ?
Alors, on a travaillé depuis un an, et c'était mon prédécesseur, Patrick Le Yari, qui avait lancé ses refontes. Et nous avons eu une question, est-ce que nous conservons le titre L'Humanité Dimanche, qui pour nous est un patrimoine, ou est-ce que on va vers un autre titre. Et puis, comme on voulait faire une refonte, comme vous le verrez, c'est un journal vraiment magazine que nous avons voulu faire, prendre plus le temps. Il y a des enquêtes, des reportages, des histoires humaines. Et puis,
pardonnez-moi, il y avait déjà des enquêtes, des reportages, des histoires humaines dans l'Humanité Dimanche.
On était plus dans l'actualité chaude dans l'Humanité Dimanche. Et là, on veut une actualité plus posée, avec des reportages plus longs, des enquêtes, des interviews, des histoires. Là, vous aurez Bloody Sunday, l'histoire de Bloody Sunday et de l'Irlande. Et donc, nous avons dit, bon, ben, prenons le pas et changeons le titre, l'Humanité Magazine. Et puis, on avait une question. C'est que pendant très longtemps, l'Humanité Dimanche se vendait le dimanche.
Évidemment, sur les marchés, par les militants.
Voilà, et on continue. Il y a toujours des ventes militantes et nous nous sommes attachés, mais nous le sortons depuis plusieurs années le jeudi. Et donc, c'est vrai qu'en kiosque, le vendredi, une personne qui arrivait en kiosque et qui voulait acheter l'Humanité Dimanche, ah ben si ce n'est pas le bon numéro, on attendra dimanche prochain. Donc, nous avons sauté le pas. Et nous en sommes très heureux.
Juste un mot technique, le prix est indiqué, 3,90 €. On peut acheter l'UMA Magazine sans acheter l'UMA. Ce n'est pas comme certains magazines qui sont couplés, l'équipe magazine par exemple. Il faut acheter le quotidien pour avoir le magazine et on n'a même pas le droit d'acheter le magazine sans le quotidien, ni le quotidien sans le magazine.
C'est un supplément à l'Humanité. Vous pouvez vous abonner avec le journal du vendredi, mais vous pouvez aussi, sur les marchés, en vente militante ou en kiosque, l'acheter seul.
La lecture des magazines, c'est 85% d'hommes qui lisent les hebdos, ouais. Et vous avez voulu, si je suis bien informé, en quelque sorte le féminiser.
Ben oui, on veut élargir notre audience à l'ensemble de la gauche, c'est déjà le cas. C'est un journal d'opinion, un journal communiste, mais qui s'adresse à l'ensemble de la gauche, au monde associatif, au monde syndical, et c'est vrai qu'il y a une question. Dans les magazines, 85% des lecteurs sont des hommes. Et donc, oui, nous, par des refondes, notamment des chroniqueurs et des chroniqueuses, nous avons deux de nouvelles chroniqueuses et nous en sommes extrêmement fiers. Barbara Cassin, quand même une académicienne, ouais. Donc c'est une véritable question. Et Audrey Vernon, comédienne, qui a été, elle aussi, chroniqueuse, notamment à France Inter, et on doit son spectacle « Comment épouser les milliardaires ». Et donc, nous voulons évidemment nous adresser à un large public, et y compris à un public féminin. Et alors, puisque je rappelle que c'est la moitié de l'humanité.
Oui, il faut toujours rappeler cette chose-là. Il y a Barbara Cassin, Audrey Vernon, et puis il y a un homme parmi les nouveaux chroniqueurs, c'est un syndicaliste coursier à vélo. Il s'appelle Arthur Hay. Pourquoi lui ? Pourquoi un coursier à vélo ?
Alors, nous avons aussi Francis Wurst, qui a été député européen que nous conservons, qui était déjà chroniqueur, et puis Arthur Hay, jeune livreur, comme on dit, ubérisé, syndicaliste, qui a monté un syndicat à Bordeaux et qui monte sa coopérative.
Et qu'est-ce qu'il vous raconte ?
Eh bien, il va raconter son quotidien. Vous voyez, ça, c'est une des spécificités de l'Humanité Magazine. Personne, dans tous les autres journaux, vous avez des chroniqueurs, je dirais, professionnels. Et là, vous avez un ouvrier du monde du travail qui va venir expliquer son quotidien. Et dans le même magazine, vous allez pouvoir trouver Arthur Hay, livreur ubérisé, et Barbara Cassin, académicienne. Et je crois que ça, il y a seul l'Humanité Magazine peut l'offrir à ses lectrices et ses lecteurs.
Alors, dans votre magazine, pour les plus nostalgiques dont je suis, et les plus jeunes dont je ne suis plus, hélas, on trouve deux pages consacrées à Pif Gadget et la possibilité de s'abonner à Pif le Mag. Pif le Mag, ça avait été relancé par Frédéric Lefebvre, ancien sarkozyste, c'est toujours lui qui s'en occupe.
Nous sommes très heureux d'avoir encore deux pages de Pif Gadget. C'est un des monuments, un des patrimoines français. Ça s'adresse aux jeunes, aux plus jeunes, mais aussi,
vous le dites, les parents lisaient.
Les parents et même les grands-parents. Et oui, c'est sous licence avec une société dont Frédéric Lefebvre fait partie. Il n'est pas seul.
D'accord. Donc, je veux savoir comment ça se passait, la collaboration entre un communiste et un ex-sarkozyste.
Mais écoutez, c'est un groupement de personnes qui nous aident pour relancer Pif Gadget. Et ça se passe très bien. Pif vit très bien. Nous aurons deux pages pour nos lectrices et nos lecteurs, et nous en sommes très heureux.
Il y aura un gadget dans l'Humanité Magazine ou jamais ?
Non, il n'y aura pas le gadget dans l'Humanité Magazine, mais vous pouvez trouver toujours le gadget dans Pif Gadget.
Alors, il n'y a pas que le magazine qui change de formule, il y a également le quotidien, et puis il y aura une refonte. Le quotidien, ça démarre lundi, et mercredi ou jeudi, il y a une refonte du site. On parle de tout ça avec vous, Fabien Gay, vous êtes le nouveau patron de l'Humanité Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, et surtout, c'est ce qui nous intéresse car nous sommes une émission média, directeur de l'Humanité depuis peu, à l'échelle de l'UMA qui a été créée en 1903, c'est depuis peu, depuis quand vous
1904.
Êtes le... 1904, pardonnez-moi, depuis quand vous êtes le...
29 septembre dernier.
Il n'y a pas que l'Humanité version magazine qui change, on a parlé pendant la première partie de cet entretien, mais à partir de lundi en kiosque, il y a une nouvelle maquette, un nouveau quotidien pour l'UMA. Quels vont être les changements ? Ce n'est pas seulement des changements de forme, c'est également des changements de fond. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans le quotidien l'Humanité ?
Alors, on a parlé de l'Humanité Magazine, on voulait prendre plus le temps avec des longs reportages. Et donc ça sera en très grande complémentarité avec l'Humanité Magazine, qui sera vraiment dans l'actualité chaude, plus incisive, plus aérée. Nous voulons plus d'enquêtes, de reportages, de révélations. Et donc, nous avons des points forts, notamment la rubrique Capital Travail, qui pour nous est évidemment, je dirais, structurant, qui fait partie de notre ADN. Il y aura un agenda des luttes, notamment sur cette question-là. Nous gardons aussi, évidemment, la rubrique culture-savoir, qui pour nous est extrêmement importante, politique et citoyenneté. Et surtout, nous accueillerons aussi des nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses. Nous aurons une DR qui sera...
la dernière page.
Une dernière plage qui sera un jour avec. Un jour avec, c'est à travers une personnalité, du monde du travail, du monde de la culture, du monde de la science, raconter son quotidien, mais une lutte. Et ça sera formidable, parce que vous pourrez avoir un caissier, une caissière d'un hypermarché, le lendemain avoir un ou une scientifique, et donc ça sera un point fort. Et puis nous avons rénové aussi nos pages tribunes et idées, et nous confronterons les débats avec une grande question. Par exemple, êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire ? Vous aurez un pour et un contre. Ça sera des débats gauche-gauche ou des débats gauche-droite, parce qu'il y a besoin d'affûter les arguments.
Avec des gens de tous les sexes ? Je veux dire le sens de ma question. La une de l'UMA hier, dites-moi, c'était première de corvée, dernière au JT. Oui. Et vous parlez, vous dénoncez la sous-représentation des femmes. Et au milieu du journal, il y a la page débat. Oui. Pourquoi les profits explosent-ils en pleine crise sanitaire ? 4 intervenants, 4 mecs.
Eh ben oui.
0 femmes.
Eh oui, vous avez raison. C'est vrai. Et bien, souvent, quand même, dans nos tribunes et idées, nous avons la parité. Alors après, il peut arriver que sur une journée, il y ait 3 hommes, et puis vous pouvez avoir le lendemain 3 femmes, mais c'est vrai qu'il faut veiller à ça. Et c'est pour ça que nous avons refait nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, elles seront à parité, comme dans l'Humanité Magazine.
Combien d'exemplaires de l'UMA sont diffusés chaque jour, et quel lectorat visez-vous ? Quel chiffre visez-vous ? Avant, et ensuite, on parlera de la structure presque sociologique, si j'ose dire, du lectorat de l'UMA. Mais d'abord, les ventes.
Les ventes, c'est entre 35 et 40 000 quotidiennement. Voilà. Avec une très grande force, ce sont nos abonnés.
Combien d'abonnés ?
33 000, à peu près, entre 33 et 35.
Les ventes, c'est un chiffre qui peut monter ou avec la tendance de la fin du papier, je parle sur l'échelle d'un siècle, le simple fait de se maintenir est déjà une victoire pour un journal comme vous ?
Mais qu'une victoire pour l'ensemble de la presse. Alors évidemment, pour un
Bien
journal
sûr.
Comme nous, qui est un groupe indépendant des puissances de l'argent, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, mais j'ai envie de dire, nous résistons parfois un peu mieux que certains de nos confrères. Alors c'est vrai qu'il y a la question de la fin du papier, moi je ne crois pas, et nous continuons à dire que nous croyons au papier, et donc c'est pour ça que d'ailleurs nous rénovons, mais nous rénovons aussi notre site internet pour aller gagner des lectrices et des lecteurs et des abonnés sur le numérique. Et mercredi prochain, vous aurez l'occasion de découvrir notre nouveau site internet qui lui aussi sera plus acéré, plus éditorialisé. Et pour la première fois, nous accueillerons des chroniqueurs et des chroniqueuses vidéo.
Qui est votre lectorat ?
Notre lectorat, il est simple. Il y a une partie du monde militant, du monde militant communiste, mais aussi de l'ensemble de la gauche, du monde associatif, du monde syndical, et puis évidemment des hommes et des femmes de gauche, mais aussi au-delà, celles et ceux qui sont attachés au pluralisme de la presse. Parce que vous voyez, moi, tous les matins, et même avant que je sois directeur de l'Humanité, j'aimais regarder et lire Le Figaro, Libération, Le Monde, Les Échos et l'Humanité, parce que j'ai besoin de ça pour me confronter, pour rencontrer différents angles et qui me permettent de me forger une opinion. Et donc, il y a des hommes et des femmes qui, encore dans ce pays, et heureusement, sont non pas attachés à la pluralité, parce que j'entends beaucoup ça ces derniers jours. La pluralité, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs journaux, mais au pluralisme des idées. Et donc, c'est ce lectorat que nous cherchons à convaincre de nous lire et de s'abonner à l'Humanité.
Point commun très fort entre vous, entre tous les éditeurs de presse et Culture Média, on croit tous au papier. En revanche, il y a un problème qui touche tous les journaux, le prix du papier.
Le prix du papier a fortement augmenté.
Monde, le journal du dimanche, le JDD ont répercuté la hausse du prix. Ils ont augmenté de 20 centimes. Qu'en est-il pour l'UMA ?
On a augmenté de 10 centimes. C'est un crève-cœur pour nous parce que nous souhaitons que la presse reste accessible au plus grand nombre. Et c'est vrai que 2,50 euros par jour, ça peut être très impactant dans le porte-monnaie des familles, et notamment des familles les plus populaires. Mais c'est vrai que la hausse du coût du papier, par exemple pour l'Humanité Magazine, c'est plus 12%. Donc vous voyez, c'est quand même pas anecdotique. Et on nous annonce, certains annoncent, même qu'ils pourraient avoir une pénurie de papier au mois de juin. Nous n'y croyons pas, nous nous battons pour en trouver. Mais c'est une véritable question auquel tous les éditeurs de presse sont confrontés.
Pénurie de papier au
ça
mois
pourrait,
de juin annoncé,
ça
pourrait. Mais on va en reparler évidemment dans cette émission.
Mais il
n'y
a pas eu dans le monde de la presse, Monsieur Vandel, que les coûts des matières premières explosent, dans le bâtiment et dans tant d'autres,
bien sûr,
et qu'il y ait une pénurie d'un certain nombre de matières premières.
Un mot sur la fête de l'UMA, dont vous avez été le directeur. Révolution,
oui.
Elle ne sera plus à la Courneuve, mais dans l'Essonne, sur la commune du Plessis-Patay, si je suis bien informé.
Tout à fait.
Pour quelle raison ? Ça va changer quoi ?
Vous savez qu'on est très fiers, et je pense que vous aussi, d'accueillir les JOP 2024.
Oui.
Et donc le terrain que nous occupions jusqu'à présent va être le village des médias. Et
voilà.
Nous sommes contraints à ce déménagement, ce que nous savions depuis maintenant plusieurs années, y compris j'étais directeur de la fête de l'Humanité entre 2015 et 2017, je le savais déjà, donc les équipes ont travaillé et on a trouvé un nouveau terrain. Nous sommes très contents d'aller sur ce nouveau terrain, il est plus grand, nous allons pouvoir accueillir encore plus de personnes et donc ça sera au Plessis-Patay, au cœur de l'Essonne, le 9, 10 et 11 septembre prochain. Et j'espère vous y voir, monsieur
Vandel. C'est possible que ça dépend de la musique.
Je vous y invite.
J'espère qu'il y aura des merguez.
Ça, non, c'est vous savez qu'il y a toute la gastronomie.
Mais je sais,
ça,
je
c'est
sais.
Une fausse opinion
ah bon
sur la fête de l'Humanité.
Allez-y.
Le sandwich merguez. Vous savez que vous pouvez manger, évidemment, des sandwichs, mais aussi, par exemple, des plateaux de fruits de mer, toute la gastronomie française et du monde. Parce que nous avons un village du monde avec 110 stands et donc vous pourrez goûter toute la gastronomie mondiale.
Vous êtes le directeur de l'Humanité, Fabien Gay. Vous êtes également sénateur.
Oui.
Question basique, comment vous arrivez à cumuler, c'est un travail à plein temps à chaque fois. Comment vous allez faire deux plein temps en une seule et même semaine ?
Alors d'abord, j'ai des très bonnes équipes. Je reste sénateur à temps plein et aussi directeur de l'Humanité à temps plein.
Mais comment vous faites ? Vous êtes là le soir de bouclage ? Comment ça se passe ?
Je suis là... Je me partage mon temps, 2 à 3 jours par semaine, les week-ends à l'Humanité, et puis 2 à 3, 4 jours par semaine, et le soir aussi. Et des fois, je peux être le matin au Sénat, l'après-midi revenir à l'Humanité, le soir repartir en séance. Je reste à temps plein, et je le dis, parce que je sais que ça peut tourner, peut-être que c'est votre prochaine question, je ne prends pas de salaire et de rémunération à l'Humanité. Et comme l'ensemble des élus communistes, je reverse une partie de mes indemnités à mon parti.
Un mot au sujet de la schizophrénie, mais non pas sur le salaire. Est-ce qu'il est possible de critiquer Fabien Roussel, le candidat communiste dans l'UMA ?
Mais nous sommes un journal engagé, un journal d'opinion, un journal communiste. Nous sommes engagés dans cette campagne. Nous aurons vocation à accueillir l'ensemble des candidates et des candidats de gauche. Ça, c'est une exclusivité que je vous donne, puisque nous interviewerons l'ensemble des candidates et des candidats de gauche. Et évidemment, nous sommes engagés dans cette campagne. Et nous parlons beaucoup, évidemment, de Fabien Roussel et sur les thématiques de campagne.
Vous avez pas répondu à ma question.
Pourquoi je n'ai pas répondu à votre question ?
S'il y a une critique à faire de Fabien Roussel, est-il possible qu'on puisse la lire dans l'UMA ?
Mais nous sommes...
Ou est-ce que ça ne peut pas aller au-delà, je ne vous le reproche pas, hein, du pur militantisme ?
Nous sommes un journal engagé, un journal d'opinion, mais un journal indépendant. Et si nous avons des choses à dire, nous les disons.
Merci beaucoup Fabien Gay, directeur de l'Humanité, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis, membre du groupe CRCE. Je le rappelle, le nouveau Humanité magazine, c'est à partir d'aujourd'hui, plus seulement le dimanche. Et la nouvelle formule de l'UMA quotidien, c'est à partir de lundi. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Monsieur Vandel.
Dans un instant, Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde, la chaîne troisième réseau mondial après CNN et MTV. La chaîne s'agrandit. Il y avait les Suisses, les Belges, les Canadiens, les Québécois, c'est pas pareil, les Français. Et arrive la principauté de Monaco. On lui demandera pourquoi, ce que ça va changer. Et puis on va parler aussi des nouveautés de la chaîne, qui se met aux séries, notamment aux séries humoristiques. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Yves Bigot.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes le directeur général de la chaîne TV5 Monde, le troisième réseau mondial de télévision après CNN et MTV. TV5 Monde qui touche combien de personnes ?
404 millions de foyers partout sur la planète, y compris en Chine et en Corée du Nord, Philippe.
Le chiffre a augmenté. La fois que vous étiez venu, c'était 350 millions. Maintenant, on est à 404. En Corée du Nord, ça ne chahait pas.
Bien sûr, on est sous-titré en coréen, on l'avait fait pour la Corée du Sud, mais on est diffusé en Corée du Nord, c'est attesté par pas mal de gens, notre bureau de Hong Kong d'abord, et Yann Moix qui un jour, dans un article de Paris Match, commençait son papier par « Je m'installe dans mon hôtel à Pyongyang et je regarde TV5 Monde ».
Mais c'est simplement dans les hôtels de luxe, pardon de cette question, je ne m'y attendais pas du tout, c'est dans les hôtels de luxe, tenter qu'il puisse y avoir du luxe en Corée du Nord, mais des hôtels pour les étrangers, ou est-ce que la population a accès à TV5 Monde ?
C'est au-delà de ça, c'est sans doute pas 100% de la population, c'est vraisemblablement dans la capitale, peut-être une ou deux autres grandes villes, mais c'est au-delà des hôtels, oui.
Alors, je dois dire que c'est pas rien TV5 Monde, le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde et la troisième langue parlée sur Internet. Une fois que j'ai dit ça, je raconte la structure de TV5 Monde. C'est une alliance de télévision francophone française, belge, suisse, québécoise, il y a France Télé, les RTBF, RTS, Radio-Canada, enfin ça, c'était avant. Car il y a du nouveau. Depuis fin décembre, début janvier, TV5 Monde s'agrandit, racontait Yves Bigot.
La principauté de Monaco nous a rejoints depuis le 9 décembre, très précisément, où nous étions en principauté et où donc les monégasques entrent dans la gouvernance, donc le financement hein, aussi de TV5 Monde. Donc c'est effectif depuis le 1er janvier.
Vous avez signé le contrat en présence du prince Albert de Monaco en personne. Dans un communiqué de presse qui date du 6 janvier, TV5 Monde écrit ceci. La décision de Monaco constitue l'une des priorités du plan stratégique 2021-2024 de TV5 Monde. Une priorité à ce point et corollaire, pour quelle raison ?
Parce que j'ai compris il y a un certain nombre d'années maintenant que les 5 États qui étaient nos bailleurs de fonds jusque-là auraient du mal à nous donner les financements nécessaires à notre développement et que la croissance ne pouvait être qu'externe et donc qu'il fallait faire entrer de nouveaux États. C'est la première fois depuis 1986 hein, qu'un nouvel État entre dans TV5 Monde et donc j'ai commencé dès 2016 à parler avec la principauté de Monaco et on a enfin conclu.
Je vais mettre à leur place, pourquoi ils vous ont dit oui ? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, à part dépenser de l'argent ?
404 millions de foyers dans le monde, plus de 60 millions de téléspectateurs qui donc seront informés de l'actualité et de toutes les activités de la principauté de Monaco, notamment dans les domaines qui intéressent particulièrement la principauté, qui sont le numérique et l'environnement.
C'est-à-dire qu'ils vont vous produire des programmes. Comment ça va se passer?
Oui, bien sûr.
Il faut expliquer que sur TV5 Monde, on voit des reportages de la télé suisse, de la télé canadienne. Il y a des docs extraordinaires de la télévision canadienne. Que va faire Monaco avec vous?
Eh bien, ils lancent, pour adhérer à TV5 Monde, il faut qu'ils lancent leur chaîne publique, qui donc devrait commencer à émettre à partir de septembre 2022, mais qui a déjà une existence juridique, et donc qui aura un journal télévisé qu'on diffusera, comme on le fait pour tous les autres pays membres, et puis aussi qui va produire des magazines, des documentaires, des émissions de débat.
Alors, un journal télévisé, comme je vais dire, à Monaco, il vous dit toucher un bassin de 400 millions de foyers dans le monde. La population de Monaco, c'est par leur faire injure que de dire qu'ils sont 38 000 habitants, dont seulement 9 600 monégasques, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Leur JT, ça va être un JT de Monaco ou un JT du monde?
Ça va être un JT de Monaco et du monde. Et la chaîne s'appelle Monte Carlo Riviera, donc la Riviera. Ça veut dire tout le pourtour méditerranéen, français et italien du Nord.
Ouais, Riviera, c'est le nom américain de la Côte d'Azur. Alors, Samu, c'est Monte Carlo...
Et italien.
Et italien. MCR, Monte Carlo Riviera, c'est le verlan de RMC.
C'est amusant, effectivement.
C'est un petit hommage ou pas du tout? Ça s'est fait comme ça?
Alors, je l'ignore, il faudrait le demander aux autorités monégasques, mais la principauté, justement, vous le rappelez, Philippe, a toujours été... très impliqué dans les médias, Radio Monte-Carlo, Télé Monte-Carlo. Le prince régné, dans les années 90, avait vendu en fait les objets audiovisuels de la principauté. Et le prince Albert II souhaite que la principauté revienne dans les médias.
Voilà, je dois le dire pour qui n'aurait pas suivi toutes les histoires de séparation, concentration des médias. RMC fait désormais partie du groupe Altice et TMC fait désormais partie du groupe TF1. Je sais que vous êtes un grand fan de musique, petit blind test. Vous allez me dire si vous reconnaissez cette musique. Je me disais que j'allais peut-être vous surprendre. C'est l'hymne de Monaco.
Ah oui, voilà, d'accord.
Voilà,
mais vous savez, dans quelques mois, je le connaîtrai par cœur.
Exactement. Je m'en doute. Yves Bigot, à part ça, quoi de neuf sur TV5 Monde? J'ai découvert que vous avez lancé la semaine dernière une série humoristique. Ça s'appelle Damoiselle, racontez l'idée.
Bah écoutez, c'est raconter en fait l'histoire à travers des influenceuses de beauté. Donc, vous imaginez.
Je sais ce que c'est. Donc, je connais le programme, mais c'est vrai que c'est pas facile à raconter. Donc
mais non, mais c'est vrai parce que ça se regarde, mais on y explique comment se coiffer à l'époque du Moyen Âge, mais donc avec les mots et les expressions des influenceuses d'aujourd'hui, ou comment Cléopâtre, par exemple, faisait pour ses protections périodiques.
Voilà, parce que j'ai appris grâce à cette série que ça existait déjà dans l'Égypte antique. C'est une web-série qui est incarnée par Ambre Larrazet. On la voit à l'antenne et elle écrit aussi, mais elle n'est pas toute seule. Elle co-réalise 8 épisodes de 5 minutes.
Et ça démarre très très fort, hein, puisque la première semaine, on a plus de 100 000 vues.
Il y a des femmes de l'époque gauloise, du Moyen-Âge, de la Révolution, de la Seconde Guerre mondiale, des 50s. On va entendre un extrait. On est au Moyen-Âge, donc avec le vocabulaire et les codes de 1452, c'est précis. La mode de l'époque chez les femmes, ça c'est authentique.
C'est l'humour d'aujourd'hui.
C'est l'épilation du front. L'humour d'aujourd'hui, on va l'entendre maintenant, extrait.
Tout d'abord, je vous dois des excuses. Je ne suis point hyper présente ces derniers temps. Je suis super occupée depuis que mon époux est revenu de chez les Anglois. Il ne cesse de me chanter son amour courtois à longueur de jour.
Et là, c'est, je m'en dis.
Saut 12e siècle. Enfin bon, j'ai quand même pris un peu de mon temps rien que pour vous, l'aujourd'hui, pour vous faire une vidéo spéciale front haut. Je rappelle que c'est une mode récente, ça ne fait que 40 ans que ça existe. Ça vous permet quand même d'être plus près de Dieu. Plus vous avez le front haut, plus vous êtes importante. Et ça s'accorde avec tous les affublements. Avec une chince, avec un doublet, avec une aube. Non, je me gosse. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce portrait de Agnès Sorel. Si vous ne l'avez pas vu, je le mets juste ici. Dame, on est d'accord, c'est trop beau, trop luisant. Bon, là, ne me jugez pas, j'ai le front hyper bas. On dirait une pécheresse, pas de capture d'écran. Merci.
Alors évidemment, à l'image, on voit la chance, on voit le doublé, on voit ce que c'est. Et puis j'adore le mot, une mode récente, 40 ans, c'était ça, le Moyen-Âge. Que vient faire l'humour sur TV5 Monde? Je ne vous le reproche pas, mais on ne vous attendait pas sur ce terrain-là. Pourquoi vous avez pris cette décision?
Parce que une de nos missions, c'est de nous adresser, comme tout le monde, hein, au public jeune qui décroche des médias traditionnels. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'évidemment, en Afrique, on est regardé par la jeunesse, mais Voilà, ça c'est une série qui s'adresse plus effectivement au public européen, hein, puisqu'on voilà, on y parle de l'histoire. Oui. Et effectivement, parmi les 100 000 personnes qui ont déjà regardé cette vidéo, on parle à des moins de 25 ans.
TV5 Monde Plus, c'est la nouvelle plateforme que vous aviez lancée, c'était en septembre 2020. Ça en est où? C'est la question que je vais poser à Yves Bigot. Et on va dire un mot du roman que vous avez publié à la rentrée. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yves Bigot, le directeur général de la chaîne TV5 Monde, ravi d'accueillir en son sein, au-delà des 5 actionnaires principaux historiques, la principauté de Monaco. On a appris hier, Yves Bigot, la disparition du comédien Gaspard Ulliel, dont la réputation avait largement dépassé les frontières de la francophonie. J'imagine que TV5 Monde va lui rendre hommage.
Oui, bien sûr, on a rediffusé dès hier à 18h50 son passage dans l'invité de Patrick Simonin et on va diffuser le film de Rithipan, le réalisateur cambodgien, Un barrage contre le Pacifique avec Isabelle Huppert donc, et Gaspard Ulliel, tiré du grand roman de Marguerite Duras.
Un des chefs-d'œuvre de Marguerite Duras. En septembre 2020, vous aviez lancé un projet qui vous tenait à cœur, c'était la plateforme TV5 Monde Plus, que le Figaro présentait comme le Netflix de la francophonie. Plateforme poussée en très haut lieu, elle avait été demandée par Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'un sommet de chefs d'État. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette plateforme TV5 Monde Plus?
On coche moins de 18 mois après toutes les cases qui nous avaient été demandées par les gouvernements, à savoir plus de 6000 heures de programme et disponibilité absolument partout dans le monde, excepté en Chine. Vous savez que la Chine n'aime pas beaucoup être pénétrée par Internet.
Excepté en Chine, alors vous avez fait des sacrés progrès, parce qu'au départ, vous aviez les droits de diffusion dans 194 pays. Vous étiez venu en parler il y a un an et demi, excepté la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas. Et j'allais vous demander, toujours pas les Pays-Bas, donc il n'y a plus que la Chine qui pose
alors,
problème.
Non, les Pays-Bas, c'est en cours de résolution, mais on n'y est pas techniquement aujourd'hui. En revanche, on est aux États-Unis depuis le mois de juin.
C'est une plateforme AVOD. Un mot, la différence avec la SVOD?
C'est que c'est gratuit, mais que peut accueillir de la publicité, puisque le A, c'est pour advertising.
Alors, je reviens au contenu. Il y a 11 catégories, cinéma, découverte, culture, art de vivre, divertissement, langue française, partenaires culturels, séries, fiction télé, environnement, mémoire, société, jeunesse, podcast. J'ai regardé ce matin, l'offre est très, très riche, pour ne pas dire pléthorique. Vous avez une préférence, vous avez quelque chose, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Qu'est-ce que vous allez picorer quand vous allez sur la plateforme?
Alors moi, évidemment, je regarde beaucoup les séries hein, canadiennes, suisses. Alors, je peux recommander à vos auditeurs, en ce moment, par exemple, la remarquable série suisse qui s'appelle Wilder. Trois saisons.
Et c'est sous-titré?
C'est sous-titré en 5 langues. Français, anglais, allemand, espagnol, arabe.
Vous avez plusieurs vies, Bigot. Vous avez été journaliste, vous avez écrit une dizaine d'ouvrages sur la musique, sur le rock, sur le foot, sur Brigitte Bardot. Et là, vous avez publié votre premier roman, ça s'appelle Catherine. Ça s'écrit K-A-T-R-I-J-N. Au hasard, je ne m'attendais pas à penser à ça. Elle est hollandaise.
C'est ça. C'est le IJ, c'est du néerlandais, oui.
Vous êtes vengé des Pays-Bas qui vous posent problème?
Non, pas du tout.
Je viens de réaliser à l'instant le télescopage. Pourquoi vous mettre dans la peau d'une fille? Pourquoi une hollandaise? Et pourquoi dans les années 60? Qu'est-ce que ça permet de raconter?
Cette période absolument incroyable, donc de 2 ans de la vie de cette jeune fille, entre l'été 66 et l'été 68, parce que c'est une période qui est très mal chroniquée et très mal racontée en France, où, on va dire, l'aventure du Swinging London et des hippies à San Francisco, hein, puisqu'elle part d'Amsterdam, elle va à Londres, puis en Californie. En France, cette période est écrasée par mai 68, qui était un mouvement, certes, de jeunesse, certes euphorique, mais qui était un mouvement très politisé, alors que le rock, les hippies... Certes, il y a un aspect politique, si vous voulez, quand on est contre la guerre du Vietnam, il y a quelque chose de politique, évidemment, mais ça n'est pas du tout politisé à la française. C'est un mouvement créatif, artistique, même artisanal, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on en raconte. Et si j'ai voulu que mon héroïne soit donc une jeune fille, hein, elle a entre 16 et 18 ans, c'est parce que de toutes les libertés, les libérations qui se sont jouées au cours des années 60, la plus importante et la plus révolutionnaire, c'est évidemment la libération des femmes et des jeunes filles.
Voilà, elle ne porte pas de soutien-gorge, mais comme vous, elle parle de foot. Yves Bigot, vous avez été reconduit à la tête de TV5 Monde pour un mandat de 5 ans. Il court jusqu'en 2022. Quel mois?
Décembre.
En décembre. Vous allez faire quoi après? Est-ce que vous allez tenter de rempiler pour un troisième mandat?
Rien ne s'y oppose.
Merci beaucoup Yves Bigot, directeur général de la chaîne TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.
Merci Philippe.
L'émission continue évidemment après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé une journaliste parler de son mari ministre dans sa propre émission de télévision. Vous voyez évidemment à qui je fais allusion. Notre invité, c'est l'écrivain Daniel Picouli pour une autobiographie très personnelle et œnologique, Les larmes du vin. Et puis dans Les indispensables, les sketchs cultes de Muriel Robin. Et puis un hommage à l'acteur Gaspard Ulliel, l'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.